devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses et Dieu béni éternellement. C'est en son nom béni aussi que je vous souhaite une très bonne et heureuse année nouvelle, tout en vous disant bienvenue à notre émission En sa présence, une émission du Centre biblique. Et c'est Danny Wechai, votre serviteur, qui est à la présentation. Nous avons terminé l'année dernière avec la pensée d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Depuis, eh bien voilà, une nouvelle année a bel et bien commencé et nous y sommes déjà entrés de plein pied. Le texte d'aujourd'hui, nous le trouvons dans Ézéchiel, au chapitre 34, du verset 23 jusqu'au verset 26. J'établirai sur elle un seul berger qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elle, des environs de ma colline, un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Ce texte nous parle de la promesse de la bénédiction. Et c'est la chose que j'ai sur le cœur aujourd'hui. En cette période précise de l'année, les souhaits de tout genre fusent de tous côtés, dans les lieux de travail, dans la rue, au marché. De souhaits émis par tout le monde, envers tout le monde, sauf les ennemis. Les uns envers leurs parents, leurs enfants, les autres envers leurs frères et sœurs, leurs voisins, leurs collègues ou leurs connaissances. Toutefois, une question capitale demeure. C'est celle qu'on trouve dans le psaume au chapitre 4, au verset 7, la première partie. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Mais qui nous fera voir le bonheur ? Est-ce que les vœux que les êtres humains que nous sommes échangeons entre nous nous feront voir le bonheur ? Non, il n'est pas au pouvoir de l'homme, ce faible mortel, de faire arriver par des simples paroles, comme par un coup de baguette magique, le bonheur sur les autres. Le psalmiste répond à cette question dans la deuxième partie du verset que nous avons lu. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » La lumière de ta face. Le bonheur ici est assimilé à l'expression « la lumière de ta face ». Et cette expression, « la lumière de ta face », est utilisée comme une formule de bénédiction dans le livre des Nombres, écrit par le grand Moïse au chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je le bénirai. » Ça, c'est la version Louis Segond. Je lis le verset 25 d'après la version Darby. « L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. » La lumière de ta face, dans ce passage, est à son tour assimilée à la bénédiction. Nous pouvons rendre la question du chapitre 4 de Psaume au verset 7 de la manière suivante. Qui nous fera voir la bénédiction? Ou qui nous bénira pour que nous puissions voir le bonheur? Ce n'est pas un ancêtre, ni un esprit quelconque de bonheur, ni même un ange. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'auteur de la vraie bénédiction. Parlons d'abord de ceci. Qu'entendons-nous par le bonheur? Le bonheur que nous apporte la bénédiction, qu'est-ce qu'il est en fait? Le bonheur est un mot difficile à définir, car l'homme naturel ne le connaît vraiment pas. Chacun le conçoit comme un idéal, comme quelque chose qu'on recherche et qu'on n'a pas encore atteint, et qu'on n'atteindra peut-être jamais. En raccourci, je dirais que le bonheur n'est autre que l'état d'un homme heureux. Alors, que veut dire être heureux? On va dire, c'est être un homme dont le bien-être est pleinement assuré. Oh, mais c'est formidable! Qui peut alors être heureux? Les spécialistes du bien-être disent que 10% du bien-être dépend des facteurs extérieurs ou matériels. Par exemple, le fait d'avoir une belle voiture, une grande maison ou le fait d'avoir beaucoup d'argent. 40% du bien-être, disent-ils, dépend des facteurs héréditaires, tels que la race, tels que ma tribu ou tout ce que j'ai reçu humainement de la vie biologique personnelle de mes parents. Et 50% dépend des facteurs personnels, c'est-à-dire de la façon dont je réagis aux situations que je traverse. Ça, c'est le point de vue de la psychologie. Mais la Bible nous dit que notre bien-être, notre bonheur dépend de Dieu seul. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On trouve ces paroles dans Proverbes au chapitre 10, au verset 22. Revenons à Ézéchiel, chapitre 34, du verset 23 jusqu'au verset 26. Dieu utilise un langage appartenant au domaine pastoral. Il est fâché contre les bergers
qui n'ont pas pris soin des brebis.
Entendez ici des serviteurs qui n'ont pas fait du bien au peuple d'Israël. Et Dieu s'engage à donner à son peuple un roi selon son cœur, pour conduire ce peuple vers le bien-être. Et ce roi, c'est David. Et Dieu promet la bénédiction sous la forme de pluie. Hier après-midi, il s'est abattu dans cette ville une grosse pluie avec de la grêle. Le sol a été suffisamment arrosé. Les plantes desséchées ont été revitalisées. Dans ce monde, il y en a plusieurs dont la vie ressemble à des plantes desséchées. Ils traversent une sécheresse spirituelle due au péché qui leur a ôté la saveur de la vie. Quelqu'un qui vit dans le péché est constamment assoiffé de quelque chose dont il ne sera jamais satisfait. Un coureur de jupons va faire la chasse à mort à des femmes. Il aura beau établir des listes et des listes de filles qu'il aura dévorées, il en voudra encore et toujours davantage, peu importe les sommes d'argent dépensées et le nombre de nuits de découchement. Un voleur de denier public
aura beau ouvrir
de comptes en banque et y loger des montants élevés, rien ne pourrait l'empêcher de recommencer son art ou son opération de pickpocket, même à la sortie de la prison. Le monde des péchés, chers amis auditeurs, est un gouffre, un trou, un empire d'insatisfaction. Nous avons besoin de cette pluie céleste à cause de la sécheresse due à la malédiction. À la malédiction de la loi, à la malédiction du péché. Le Seigneur Jésus avait maudit un figuier qui n'avait pas donné des fruits quand il en avait besoin. Le figuier sécha jusqu'aux racines, ce qui étonna les apôtres. Certains, pour avoir outragé Dieu, sont tombés sous le coup de la malédiction, et cette malédiction s'étend jusqu'à leur descendance, jusqu'à leurs racines. En revanche, dans Éphésiens, au chapitre 3, nous trouvons une ferme base d'assurance de la bénédiction des dieux pour son peuple. Je lis ce passage. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Comme dans Ézéchiel, au chapitre 34, ce texte nous présente l'auteur de notre bénédiction. C'est Dieu lui-même, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas ici une bénédiction souveraine et divine? Qui peut dire, en effet, « J'enverrai la pluie » si ce n'est Dieu? Lui seul peut parler aux nuages et leur ordonner de donner la pluie. La bénédiction vient toujours d'en haut. Dans Hébreux, au chapitre 7, au verset 7, il est écrit comme ceci. Or, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Allusion faite ici à comment Abraham fut béni par Melchisédek, le plus grand. J'entends souvent de nos jours, parmi les chrétiens, l'expression suivante. Sois béni! Soyez béni! Non, mes frères, on ne devrait pas parler ainsi. Même Aaron, le souverain sacrificateur, ou le grand prêtre, et ses fils, les sacrificateurs, ou les prêtres, dans la sacrificature, ou le sacerdoce lévitique, invoquaient la bénédiction en s'exprimant au subjonctif. Comme nous l'avons vu dans Nombres chapitre 6, « Que l'Éternel te bénisse !» Il ne commandait pas ou n'ordonnait pas à la bénédiction de venir sur le peuple, car Dieu avait dit au verset 27 de Nombres chapitre 6 ceci, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » La personne sur qui la bénédiction était invoquée était béni non pas parce que la bénédiction était dite, mais plutôt et uniquement parce qu'elle était demandée sur cette personne au nom de l'Éternel. Voyez-vous, ce sont d'être présomptueux sur ce point précis. Regardez dans tout le Nouveau Testament, toutes les demandes de bénédiction ou tout appel de grâce sont formulées en vœu au subjonctif, et adressé soit directement à Dieu comme prière en faveur de son peuple, soit aux hommes en guise de souhait. Aucun apôtre n'utilise l'impératif s'agissant de la formulation de la bénédiction en disant « Soyez bénis !» Prenez par exemple le vœu de l'apôtre Jean à Gaius dans sa troisième épître, au verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ce n'était qu'un souhait, un vœu, ni plus ni moins, quoique ce soit un souhait émis par un homme de foi aussi charismatique que l'apôtre Jean. Ce n'était pas un principe établi par Dieu comme quoi si l'on prospère dans son état d'âme, il doit aussi en être absolument ainsi dans tous les autres domaines. Comme voudrait nous le faire croire une certaine théologie moderne et un certain évangile dit de prospérité. N'oubliez pas que Jean adresse ce vœu à Gaius justement parce que ce dernier n'était pas en bonne santé, alors que spirituellement, il s'est porté à merveille. On est au début de l'année. Est-ce que le fait de nous souhaiter les uns aux autres une bonne santé et la longévité empêchera forcément l'un ou l'autre d'entre nous de tomber malade ou de mourir? Bien sûr que non. Par contre, on n'entendra personne adresser à personne des vœux de mortalité ou des catastrophes ou de souffrances ou de stérilité ou de célibat ou de pauvreté, etc. Pourtant, indépendamment de notre volonté, ces mauvaises choses peuvent nous atteindre d'une manière ou d'une autre, malgré tous les vœux inverses formulés à notre égard. Quels sont les caractères ou les caractéristiques de la bénédiction divine? Je voudrais le redire ici. La bénédiction divine est souveraine. La bénédiction des chrétiens, dois-je le répéter, je vous en prie, est une bénédiction divine et souveraine. L'homme ne peut pas la créer. Ça, c'est de un. De deux, c'est une bénédiction abondante. Dans Ézéchiel, au chapitre 34, il est écrit « Et ce sera une pluie de bénédiction ». En parallèle, dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, « Dieu nous a bénis de toute bénédiction ». Il est dit « de toute ». La mesure de cette bénédiction, c'est la plénitude. Notre Dieu n'est pas le Dieu de demi-mesure, ni des strictes portions. La pluie et non les gouttes. Lorsque Dieu envoie la bénédiction, il le fait d'ordinaire de sorte qu'il n'y ait pas assez de place pour tout recevoir. Souvenez-vous du prophète Élie qui était allé chez la veuve. Il y avait ce pot de farine et cette cruche d'huile qui ne s'épuisait pas. Voilà comment Dieu envoie la bénédiction en abondance. Plus loin, dans ce premier chapitre des Éphésiens, vers la fin, au verset 23, l'Église, qui est le corps de Christ et le peuple béni, est appelée la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelle abondance ! Nous avons besoin de cette plénitude de Dieu dont l'apôtre Jean dit que nous avons reçu et grâce sur grâce. De trois, c'est une bénédiction nécessaire. Car que ferait le sol sans la pluie ? Labourer, semer. Mais qu'accomplirez-vous s'il ne pleut pas? La bénédiction divine est, elle aussi, indispensable. Indispensable. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est des paroles que nous trouvons dans le psaume 127, au verset 2. Nous avons besoin de cette bénédiction indispensable pour que les âmes soient sauvées quand nous prêchons. Comme je le fais ce matin, nous avons besoin de cette bénédiction de grâce pour être gardés dans l'humilité, pour faire de vous des hommes de prière et pour vous aider à grandir dans la sainteté. De quatre, cette bénédiction est spirituelle et céleste. La pluie vient du ciel sous la forme de l'eau. L'eau, à l'état gazeux, c'est la vapeur qui finit par former des nuages, lesquels à leur tour, à l'état liquide, donnent de l'eau. Image du Saint-Esprit, symbolisé dans la parole de Dieu, tantôt par le vent, tantôt par l'eau. La vraie bénédiction de Dieu est de nature spirituelle. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est le seul passage du Nouveau Testament qui nous définit la nature de la bénédiction de Dieu envers son peuple. Pas matériel, pas financière, pas corporel, pas physique ou autre. C'est une bénédiction de nature. C'est une bénédiction d'essence spirituelle. De cette bénédiction découlent certainement toutes les autres choses. Mais ce découlement des autres choses n'est pas automatique. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas dit que si je marche dans la sainteté, automatiquement, je serai matériellement riche. Il n'est pas dit que si je marche dans la justice pratique, eh bien, je serai automatiquement en bonne santé. Le lieu où nous sommes bénis, c'est dans les lieux célestes et non terrestres. Le chrétien est un citoyen céleste. Il est sauvé sur la terre, mais il a une espérance céleste. Israël, le peuple terrestre de Dieu, avait quant à lui des bénédictions très matérielles et une espérance terrestre, c'est-à-dire entrer à Canaan, la terre promise, qui est, on le sait, la Palestine. Dieu n'avait pas choisi Israël en tant que peuple pour l'amener au ciel, mais en Palestine. Mais l'Église a plutôt une destinée et une vocation céleste. C'est pourquoi nous avons besoin de cette bénédiction tout au long de cette année et dans la suite pour être zélés afin de rechercher les choses qui sont en haut, pour grandir et persévérer dans l'espérance de la gloire jusqu'au jour où nous entrerons au ciel ayant quitté ce monde de vanité. Beaucoup, malheureusement, sont tournés dans toutes leurs attentes vers les choses de la terre. Et c'est un piège très subtil et à la fois une dure épreuve pour nous, les chrétiens vivant dans les pays socialement pauvres tels que la RDC. De 5, c'est une bénédiction adéquate. J'enverrai la pluie en son temps, dit l'Éternel dans le texte d'Ézéchiel 34. En son temps. Cher ami auditeur, quel temps fait-il dans votre cœur aujourd'hui? S'agit-il d'un temps de sécheresse? Alors, c'est un temps qui a besoin des pluies. Oui, de la pluie de la bénédiction divine. Passez-vous par un temps de lourdeur et de dépression? Vous avez besoin de la pluie. Que ta vigueur dure autant que tes jours, dit l'Écriture. La bénédiction en son temps, c'est une grâce occurrente. Souvenez-vous de la piscine de Bethesda dans l'évangile de Jean au chapitre 5, juste du verset 2 jusqu'au verset 8. Mais je lis au verset 4. Un ange du Seigneur descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Il y a un temps précis où Dieu envoie sa bénédiction en puissance pour sauver, libérer et guérir. Il faut discerner ce temps qui est quelque chose d'occurrent et pas nécessairement récurrent. On va le faire quand il est chaud, selon le dicton des hommes. Et la parole de Dieu dit à ce sujet ceci, si le fer est émoussé et qu'on n'en ait pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ça, vous pouvez le lire dans Ecclésias, au chapitre 10, au verset 10. Combien de filles n'ont-elles pas loupé la bénédiction du mariage quand l'occasion s'était présentée ou, étant encore jeunes, avec toute leur beauté et la fraîcheur de leur corps, elles ont refusé par orgueil
de donner la main aux hommes
que Dieu leur avait envoyés. Après, les années ont passé, ne voyant plus aucun candidat, elles s'élancent à corps perdu dans d'interminables jeûnes afin que Dieu leur octroie un mari. Quel gâchis ! De 6, cette bénédiction est variée. Le mot utilisé pour « pluie » dans Ézéchiel 34, au verset 26, est en fait au pluriel. Selon la version d'Arbi, ce sont des pluies, des bénédictions. En parallèle, dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 3, la version Lucegon, édition 1910, dit ceci. Toutes sortes de bénédictions. En fait, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En réalité, c'est la bénédiction dans sa diversité. Dieu enverra toutes sortes de bienfaits. Toutes les bénédictions divines se lient comme une chaîne d'or. S'il accorde la bénédiction de la conversion, Dieu donnera aussi celle de la consolation. S'il pardonne vos péchés, il peut aussi vous guérir de certaines de leurs conséquences, telles que la maladie. Mais c'est la dernière chose qui me paraît de grande valeur que je m'en vais dire ici au sujet de la bénédiction, c'est que cette bénédiction, chers amis auditeurs, a un centre. Dans Ézéchiel au chapitre 34, ce centre, c'est David. C'est en David, par David, le roi choisi de Dieu, le bon berger d'Israël. Tandis que dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 3, ce verset 3 se termine par cette expression « en Christ ». Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Bénédiction centrée en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Dans Galates, au chapitre 3, au verset 13, il est dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham aille pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si quelqu'un reconnaît aujourd'hui par la foi que Jésus-Christ a porté sur la croix sa malédiction, les horreurs de sa vie de péché, s'il invite Jésus à rentrer dans sa vie pour le sauver et être son Seigneur, le Saint-Esprit viendra habiter en lui et ainsi il commencera la merveilleuse aventure de vie pleine de bénédictions. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur Jésus, toi qui es au-dessus de toutes choses et Dieu béni éternellement, fais pleuvoir sur mes auditeurs qui ont mis leur foi en toi ta bénédiction. Dans toute sa plénitude, dans toute sa variété et dans toute sa richesse et avec gloire, selon les besoins de chacun. C'est en ton nom seul, ton nom puissant et glorieux, que je te le demande. Amen.
L'Éternel est droit, il est bon et juste, l'Éternel est droit. Il est bon et juste, ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Avez-vous besoin de contact au sujet de cette émission? Eh bien, vous pouvez appeler Danny Wechai, votre serviteur.